partage. Odile Moinon.
Bonjour à tous, Françoise Cochet, bonjour.
Bonjour.
Alors ensemble, nous allons parler du jeu du foulard. En effet, vous êtes présidente de l'APEAS, Association de parents d'enfants accidentés par strangulation.
Oui.
Qui a été créée en 2002.
Oui.
Et vous êtes particulièrement sensibilisée à ce jeu mortel. Alors en fait, c'est un groupe de parents.
Tout à fait.
Qui...
C'est un groupe de parents qui a lancé l'alerte en octobre 2000 contre ces pratiques. En fait, j'ai perdu personnellement mon fils fin septembre 2000. Et donc, 3 semaines après, j'ai réussi toute seule au départ à faire passer l'information alerte dans les médias. Et à partir de là, tout de suite, d'autres familles de victimes m'ont rejointe. Donc, on a été très vite un groupe de parents à vouloir agir contre ces pratiques.
Alors, en fait, le but de votre association, c'est d'apporter d'une part de l'aide et du réconfort, mais aussi pour sensibiliser, pour faire de la prévention.
Absolument. Nos deux objectifs sont premièrement et très important, se réconforter entre familles de victimes, arriver à tenir debout malgré tout et à pouvoir parler de nos enfants en se comprenant mutuellement. Et le deuxième objectif, c'est bien évidemment lancer l'alerte auprès de tous les parents d'enfants, qu'ils soient très jeunes ou moins jeunes, puisque ça concerne les enfants depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc, alerter les parents, alerter les professionnels de l'enfance et ensuite faire passer une information concernant la dangerosité de ces pratiques aux enfants eux-mêmes.
Oui, parce que ce n'est pas très connu, justement. Alors, on va voir en quoi ça consiste, ce qu'on appelle le jeu du foulard.
Oui.
On appelle autrement aussi, on appelle ça le rêve indien.
Les enfants leur donnent plusieurs dénominations, mais c'est vrai que jeu du foulard est totalement impropre, puisque il ne s'agit pas forcément de manipuler son corps avec un foulard.
Alors le but, si on peut dire ça, le but de ce jeu, c'est de tomber dans les pommes, de s'évanouir, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. C'est le but expérimental. Faire quelques manipulations, on en parlera tout à l'heure, quelques manipulations sur le corps qui permettent de se faire évanouir très rapidement.
Alors sur le coup ?
Alors, premièrement, c'est une apnée excessive. Ça peut être une apnée excessive, c'est-à-dire c'est ce qu'ils appellent communément le jeu de la tomate. Donc, ils retiennent leur respiration, mais de manière très, très longue. Et ils font des concours de longévité de cette apnée, si on peut dire. Ils n'arrivent plus à reprendre leur souffle et ils tombent en syncope. Donc, ça, c'est la première façon.
Ça, c'est le jeu de la tomate.
C'est le jeu de la tomate qui est donc le but de ce jeu est vraiment de tomber en syncope. Une deuxième méthode consiste à faire de l'hyperventilation, comme ils appellent, c'est-à-dire quelques mouvements, quelques inspirations profondes. Et ensuite, ils se donnent un coup violent où ils se compriment violemment le thorax au niveau du sternum. Et là aussi, ils arrivent à tomber en syncope. Troisième méthode, c'est la même hyperventilation, mais au lieu de manipuler le sternum, on manipule le cou au niveau des carotides et on bloque la circulation du sang qui va au cerveau. Et on arrive également à tomber en quelques instants en syncope.
Oui, c'est rapide.
Et ça, ce sont des expériences sur le corps. C'est-à-dire que c'est à différencier totalement des jeux dangereux auxquels on assiste aujourd'hui dans les cours de récréation. Oui. C'est vraiment un truc ludique pour les enfants. Donc avec ces trois méthodes, ils arrivent à tomber en syncope. Ensuite, ils allongent le copain par terre qui est animé de convulsions. Donc ça amuse le groupe aussi de regarder ces convulsions. Et en quelques instants, l'enfant théoriquement se réveille, se redresse.
Quelques secondes.
L'enfant reprend conscience, donc il est un petit peu hagard, ça amuse beaucoup aussi le groupe. Et ensuite, il raconte les sensations qu'il a ressenties au moment de cette syncope. Et donc, parfois, c'est quelque chose de très, très désagréable qu'il décrit. Parfois, c'est autre chose. Et donc, ça fait partie du jeu. Ensuite, lorsqu'un premier enfant a eu cette expérience, on passe au second et au troisième, et ainsi de suite. Tout le groupe y passe.
Mais ils sont volontaires, les enfants, ou
ils
on les
sont
force?
généralement volontaires au départ. Parfois, on assiste aussi à des enfants qui refusent de le faire et qui sont forcés par le groupe. Donc là, on peut parler plus d'agression. Oui. Mais c'est toujours dans la non-compréhension du risque.
Mmh. Mais alors, ça se passe, vous dites aussi, dans les cours de maternelle, dans les cours de récréation.
Oui, en maternelle, tout à fait. Des enfants,
donc, dès 3 ans.
Oui, tout à fait. Ils font des concours d'apnée. Au départ. Donc, on a même assisté l'année dernière à un petit qui racontait à 3 ans jouer à la cantine à être le champion du monde de celui qui devient le plus violé. Cet enfant-là a raconté un dimanche soir à ses parents ce qu'il faisait. Et ses parents sont, par chance, deux médecins urgentistes. Et ils ont immédiatement réagi, nous ont demandé tout de suite toutes les méthodes de prévention. Et eux-mêmes sont allés dans cette école primaire et maternelle
pour alerter les enseignants,
pour faire une prévention directement
aux enfants.
Mais ça ne
se voit pas, mais si c'était à la cantine, les dames de cantine pouvaient quand même
très souvent, les dames de cantine lancent l'alerte, mais parfois elles ne le voient pas. Parce que les jeux sont vraiment très, très discrets.
Ah oui.
Oui. Okay. Alors, ils commencent par faire cette apnée et ensuite, ils font des manipulations au niveau du cou, y compris dans les maternelles. En octobre 2000, un petit de 5 ans avait été sauvé in extremis par sa grand-mère. Il avait une ceinture souple autour du cou, attachée à la rambarde d'escalier de sa grand-mère, qui est arrivée à temps et qui lui a dit... effrayé, mais que fais-tu? Et cet enfant de 5 ans maternel avait dit à l'époque, je fais comme à l'école. Donc il avait reproduit ses pratiques de strangulation qu'il avait observées à l'école. Ceci dit, ça ne se fait pas forcément qu'à l'école. Ça peut se faire dans n'importe quel lieu public où se trouvent des enfants, dans les vestiaires sportifs, les colonies de vacances, chez les scouts. Voilà.
Mais alors en fait, donc c'est à l'école, c'est plutôt un jeu à plusieurs, et après ça, l'enfant peut le reproduire, donc il le fait seul ce jeu pour éprouver des sensations nouvelles. Alors c'est des sensations, vous dites, de type hallucinatoire, c'est ça?
Alors certains décrivent des sensations de type hallucinatoire, visuelles ou auditives. Certains ont décrit des sons extraordinaires qu'ils avaient entendus. Ce que nous relions au fait que plusieurs enfants musiciens prodiges en sont morts, donc ont-ils voulu réécouter ces sons extraordinaires? D'autres enfants décrivent des sensations totalement désagréables, un trou noir, et bon, ceux-là n'ont pas envie de recommencer. D'autres encore décrivent des sensations de relaxation extrême.
Ah oui, donc c'est un bien-être. En fait, ils veulent faire ça pour avoir cette sensation nouvelle.
Au départ, ils veulent faire ça avec le groupe parce que c'est amusant de voir comment on peut tomber et se relever.
Comment on peut agir sur son corps.
Et ils pensent que c'est totalement sans danger.
Ouais.
Après, certains d'entre eux voudront réessayer, et ceux-là qui veulent réessayer, et c'est effectivement tout seul, par exemple les manipulations au niveau du cou, ils n'arrivent pas à retrouver les mêmes sensations qu'avec les copains, et ils ont la très fâcheuse idée d'aller plus loin pour essayer de se mettre en semi-strangulation latérale, et c'est bien ce qui est arrivé à nos enfants.
Voilà.
Ils sont tous morts en essayant de reproduire avec un lien autour du cou. Ceci dit, la pratique en groupe présente également d'extrême danger, et il faut dire qu'il y a eu plusieurs enfants qui sont tombés dans le coma après avoir fait des manipulations avec les mains ou avec le bras, donc sans lien, et nous insistons vraiment lorsque nous faisons des préventions au niveau des enfants, comme quoi cette pratique en groupe est présente des dangers très très importants, en particulier d'arrêt cardiaque.
D'arrêt cardiaque, oui. D'accord, parce qu'il y a le ralentissement puis l'arrêt cardiaque.
Tout à
fait. Alors en fait, c'est très très grave puisque ça peut mener jusqu'à la mort, et vous dites, il y a 10 décès par an?
Oh, mais ça, c'est que
les décès,
mais les conséquences que nous connaissons.
Ah oui.
Il y en a certainement, probablement beaucoup plus, parce que ces cas-là, nous ne les connaissons pas tous.
Mais au moins 10 décès par an. Et les conséquences, alors, au niveau neurologique, il y a des conséquences très graves.
Les conséquences sont soit le décès, bien sûr, qui est très, très rapide, soit des enfants qui ont été réanimés dans les minutes qui ont suivi peuvent rester handicapés à vie. Et c'est ce que nous expliquons lorsque nous faisons des préventions aux enfants. Nous ne leur disons pas que ces jeux sont interdits. Ça sert, paraît-il, à rien du tout de leur parler d'interdiction. Nous leur expliquons la physiologie de la respiration, de la circulation sanguine, de l'alimentation des cellules du cerveau. Et par là même, nous leur expliquons comment on peut se retrouver plus ou moins handicapé suite
à
ces pratiques.
Mais dans un état végétatif, c'est possible.
Ah ben oui, bien sûr, il y a des enfants qui sont dans des états végétatifs aujourd'hui suite à ces pratiques.
Donc c'est extrêmement grave.
Absolument.
Et il faut, donc votre association s'appelle l'APEAS, Association de parents d'enfants accidentés par strangulation, ou le jeu du foulard, www.jeudufoulard.com. Et vous avez un site internet qui est extrêmement bien fait et avec des témoignages particulièrement émouvants, je dois le dire. Et un numéro de téléphone,
le 06 13 42 97 85, parce qu'il faut vous dire que nous diffusons des documents à l'usage des parents, principalement, donc des brochures d'information qu'on peut trouver sur notre site internet, qu'on peut imprimer, mais également un film documentaire d'alerte à l'usage
de
l'information des parents également. Et je dois dire tout de même que tous ces documents ont été fabriqués grâce à notre mécène Sanofi Aventis. Je suis obligée d'en parler parce qu'ils ont fait un travail formidable en nous aidant. Je suis une ancienne salariée de chez eux. C'est la raison pour laquelle ils nous ont vraiment aidés. Et voilà, puisque nous sommes totalement bénévoles et nous pouvons mettre à disposition du public tous ces documents.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment des signaux d'alerte pour les parents ou pour les enseignants ?
Tout à fait. Donc, ils sont décrits dans cette brochure. Premièrement, des maux de tête intenses qui ne durent pas longtemps, donc qui ne suffisent pas à alerter des parents qui ne sauraient pas que cela existe. Des traces sur le cou, qui sont pas forcément des traces de strangulation, qui peuvent être juste des petits points d'ecchymose sur le côté du cou. Des douleurs auriculaires inexplicables par les spécialistes, des taches rouges dans le blanc de l'œil qui disparaissent assez rapidement, également d'ailleurs les conséquences au niveau physiologique peuvent être une rétinopathie grave. Donc il faut savoir que les enfants peuvent perdre la vue suite à ces pratiques. Il y a également des bruits sourds qui avaient été remarqués par certains parents dans la chambre de leur enfant, puisqu'ils essayaient seuls, ils tombaient brutalement. Donc voilà, des bruits sourds, des ceintures qui traînent à des endroits totalement inhabituels, sous l'oreiller, sous le matelas, dans les poches. Enfin, vous verrez tous ces signes sur notre brochure.
Sur la brochure, donc que les parents peuvent demander, ils peuvent se rendre aussi aux 16 rues des écoles, dans le 5e arrondissement à Paris.
Il vaut mieux téléphoner être sûr que nous sommes là.
Et surtout, ne pas hésiter à consulter le site internet www.jeudufoulard.com.
Sur le site internet, vous pouvez imprimer notre brochure Jeux du Foulard.
D'accord. Et d'autre part, est-ce que c'est difficile à discerner par rapport au suicide?
Oui, alors justement, plusieurs cas, beaucoup de cas avaient été classés en suicide inexplicable depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on peut différencier totalement
vraiment,
du suicide. Oui, parce que ces enfants sont retrouvés généralement posés quelque part, donc soit assis, soit couchés, soit à genoux, soit debout sur leurs pieds, avec ce lien autour du cou. D'autres enfants plus petits avaient été obligés de monter sur un siège pour attacher ce fameux lien terrible plus haut. Donc eux, au moment des convulsions, ont pu renverser ce tabouret sur lequel ils étaient et ont pu se retrouver après
suspendu.
Mais les services de secours font totalement
la différence
avec un suicide.
Oui, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Oui.
Alors vous, Françoise Cochet, donc vous avez des actions, vous allez dans les établissements scolaires, par exemple, et vous organisez des conférences et débats.
C'est-à-dire, on répond aux très très nombreuses demandes. Donc maintenant, nous avons édité des documents pour que les professionnels puissent eux-mêmes prendre en main cette information auprès des enfants. Il est évident que nous ne pouvons pas, nous bénévoles, aller dans les 70 000 établissements français. Nous transmettons aux professionnels. Lorsque nous intervenons dans les conférences, nous essayons de faire regrouper aux organisateurs plusieurs établissements. Nous essayons de leur conseiller de mettre en de demander à la mairie de leur ville de s'impliquer dans cette réunion pour que nos informations ne soient pas dispersées et qu'on n'ait pas à revenir plusieurs fois dans la même ville. Nous avons des délégués dans toute la France, mais enfin, nous sommes tous bénévoles, je le redis.
Bien sûr, et donc on peut faire un appel à bénévoles si des auditeurs sont particulièrement concernés, qui n'hésitent pas à aller rejoindre votre association.
Tout à fait. Alors
parce
ça,
que vous en avez terriblement besoin.
Absolument, surtout sur Paris, là, j'aurais vraiment besoin d'aide pratique, ne serait-ce que pour des tâches très, très simples.
Oui. Et puis, il faut énormément informer les parents et les adultes pour qu'ils soient conscients de ce jeu.
Tout à fait, de très nombreux enfants ont été sauvés par cette information.
Voilà. Alors, Françoise Cochet, merci d'être venue nous parler. Il faut être extrêmement vigilant parce que ce jeu du foulard est extrêmement grave à tout niveau.
Absolument.
Alors, merci. Nous allons terminer en passant donc une chanson de votre association.
Merci.
Alors, merci beaucoup, Françoise Cochet.
Cours de récré, une bande de copains, un jeu en secret qui nous faisait du bien. C'était pour les faits et pas pour la frime. Recherchait ses livresses des cimes, éliminer, je terminais, erreur fatale, lit d'hôpital, un ami s'endort, à moi le remords. Il hante mes nuits. Pourquoi j'ai rien dit?